Si vous n'aimez pas l'histoire, on tâchera de vous la faire aimer. Si vous l'aimez, on tâchera de ne pas vous dérouter. Les Chemins du Passé, association d'histoire basée à Saint-Symphorien-de-Laye, vous propose de partager des moments de notre histoire en essayant de la rendre vivante, même si la manière de les présenter parfois imaginée, faits et personnages sont véridiques. Micro-histoire sur RVR présentée aujourd'hui par Claude Janin et Xavier Maga.
Chers auditeurs, bonjour. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur Claude de Saron, décédé en 1794, afin d'évoquer avec lui l'histoire du château de Saron, entre Fourneau et Amplepuis. Monsieur le Marquis, bonjour.
Le bonjour, monsieur.
Vous êtes revenu du royaume des morts pour nous parler de votre château dans lequel vous avez vécu au XVIIIe siècle, je crois.
Je vous remercie d'avoir raison d'utiliser le mot royaume, car de royaume, il est bien question.
Si cela vous agrée comme ça, nous reviendrons dans quelques instants sur votre histoire personnelle. Mais dans un premier temps, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet depuis les origines de cette demeure.
Bien volontiers. Le château s'appelle en vérité Château des Forges et est situé sur la paroisse de Fourneau qui était divisée en deux parties. Fourneau-Vernon, que vous connaissez bien, me semble-t-il, et Fourneau-Saron pour la partie nord-est. Le partage était fait par le milieu de l'église. Cette appellation de Saron, donnée à la partie du village où se trouve le Château des Forges, a progressivement conduit à abandonner l'appellation des Forges. On l'aperçoit de la route qui mène à Amplepuis.
Surtout maintenant qu'ils ont coupé les arbres.
Surtout maintenant, il est vrai. Au milieu des forêts qui encadrent la haute vallée de l'Écoron, vallée dans laquelle se trouvait une exploitation de métallurgie au bois.
Ah oui, d'où je suppose le nom de Château des Forges.
C'est ma foi vrai. Il a été construit au XIIIe siècle par la noble famille de Telly, originaire du hameau de Telly, situé à 3-4 km sur la commune de Saint-Symphorien-de-Laye, dont les privilèges furent confirmés en 1260. Cette famille fournit trois comtes de l'église de Lyon et occupa les plus hauts emplois judiciaires du comté du Forez, des charges au Parlement de Paris et Toulouse, ainsi que de nombreux officiers au royaume.
Mais il me semble que le dernier Telly était capitaine aux gardes françaises, hein, si c'est exact. Et au moment de la convocation des états généraux de 1789, il avait fondé un corps de volontaires que l'on appelait les cadets. Et ce sont eux qui ont construit la route de Montbrison à Feur. Mais retournons au château qui, d'après les Telly, devient propriété de votre famille.
Ma famille, autrement dit la maison de Saron, qui est extrêmement ancienne et fut représentée aux croisades par Geoffroy de Saron, qui alla en Terre Sainte en 1147.
Mais en représentation représentée, c'était de la simple représentation ou ont-ils guerroyé assidûment?
Ils ont guerroyé assidûment.
Ah oui, donc j'en déduis qu'ils suivaient aussi Amédée III, comté de Savoie.
Monsieur, votre érudition me fait forte impression.
Oui, n'exagérons rien.
Alors, le 13 juin 1496, pour être précis, Philibert de Telly a cédé le château des Forges ainsi que les droits seigneuriaux qui y étaient attachés et qui s'étendaient jusqu'à Valsonne. Donc il l'a cédé à Antoine de Saron, mon ancêtre, en échange de la terre de Cruise à Thésée en Beaujolais.
Tiens, un échange, mais vous en connaissez la cause?
À l'époque, d'autres membres de la famille de Saron habitaient à quelques lieues des Forges, au château de Rochefort à Amplepuis. Ils se seraient tout simplement rapprochés, j'imagine.
Oui, effectivement, ça se tient.
Plaît-il?
Je voulais dire, cela fait sens.
Ah, oui, da.
Bon, essayons à présent maintenant de faire une description de votre château.
Alors, voyez-vous, cette construction constitue l'exemple d'une maison forte du XIIIe siècle, agrandie en demeure de plaisance au XVIe et XVIIe siècle. Il faut imaginer un ensemble entouré de douves, comprenant un donjon carré à l'arrière du bâtiment, et des bâtiments bas formant la cour.
Oui, le château fort classique, quoi.
La maison forte. Au XVe siècle ont été ajoutées deux tours, ou trois tours, l'une pour l'entrée dans la cour, l'autre venant agrémenter la façade ouest. L'ensemble a été profondément remanié dans la deuxième moitié du XVIe siècle pour établir la structure actuelle. Construction des bâtiments est et ouest, assurant la liaison entre la tour d'entrée et le donjon, formant une cour intérieure agrémentée d'arcades au rez-de-chaussée et d'une galerie ouverte soutenue par des colonnes rondes en pierre jaune au deuxième étage.
En fait, vous n'arrêtez jamais de construire.
Jamais. C'est la destinée d'un château, finalement. Il évolue avec les siècles. Au même moment, a été créé un escalier à vis, en pierre, pour l'accès aux étages. Au XVIIe siècle, l'ensemble a été entouré d'un mur de protection construit à l'intérieur des douves et orné de quatre tours carrées à chaque angle. Trois subsistent encore aujourd'hui. Cette protection s'est accompagnée de la création d'une grande terrasse devant la maison, soutenue par un mur en pierre séparant la terrasse du jardin potager. En bas du jardin avait été créée une pièce d'eau, longue et étroite, connue depuis son origine sous l'appellation le canal. L'ensemble a été complété dans les premières années du XXe siècle par un étang en fond de vallée.
Et je suppose que dans tout cet ensemble, l'escalier à vis est le clou du château.
Vous ne manquez pas d'humour, cher monsieur. Au XVIIIe siècle, je fais faire une construction venant fermer la façade est et cacher le donjon qui fut étêté. J'ai également fait moderniser l'intérieur qui en avait grand besoin.
Donc après vous, au XIXe siècle, les douves furent comblées, hein, c'est cela ?
Oui.
Et de gros travaux furent entrepris, tels la suppression des meneaux sur les fenêtres, ainsi que des ouvertures et des agrandissements d'autres fenêtres.
Exactement.
En 1846, donc si je reprends et si je comprends bien, a été achevée également et inaugurée une chapelle seigneuriale de style néo-gothique.
Néo-gothique.
La consécration en 1846 par le cardinal de Bonald est perpétuée par une inscription sur une plaque en marbre située dans la chapelle. Cette chapelle prenait la suite d'une ancienne chapelle qui avait été fondée, elle, par l'un des premiers possesseurs des forges, qu'il avait dédiée à Saint-Laurent.
Un membre de la famille de Telly.
D'accord, mais est-ce que cela veut dire que la structure du château proprement dit n'a plus été retouchée depuis le milieu du XIXe siècle ?
Il est resté tel quel depuis cette époque.
D'accord. Et donc maintenant, parlez-nous de votre histoire personnelle, hein, maintenant qu'on en a fait le tour du château et de ses tours. Et peut-on aborder le XVIIIe siècle, qui a été votre siècle ?
Je suis l'avant-dernier marquis de Saron, baron de Fléchères, seigneur de Beauregard, Franc et Jacent, officier de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, avec plus de 27 ans de service.
Eh bien, dites donc, avec une carte de visite comme celle-là, elle est en format A4 au moins, non ?
Elle est en format A4. J'ai épousé une pupille de Mions.
Je suppose qu'elle vous avait tapé dans l'œil.
Vous ne croyez pas si bien dire. Fille du premier président de la cour des monnaies de Lyon qui m'apporta en dot le somptueux château de Fléchères dans l'Ain. Outre ma carrière de militaire, je me suis beaucoup impliqué dans une grosse opération de restructuration immobilière à Lyon, conduite par l'ingénieur Perrache, pour repousser le confluent entre Rhône et Saône à la Mulatière.
Si je comprends bien, si vous n'étiez pas passé par là, aujourd'hui il n'aurait ni la gare de Perrache, ni le musée de la Confluence.
Uniquement de l'eau, vous avez raison. Restructuration qui inclut aujourd'hui le très à la mode quartier de Confluence. Je dois bien vous l'avouer, l'opération fut une catastrophe financière.
Déjà ?
Déjà, l'histoire se répète. Mais elle me permit de me faire construire un hôtel particulier sur des terrains conquis sur les cours d'eau, rue de la Charité. Quand la révolution éclata, je fus convoqué aux assemblées de la noblesse du Forez, Lyonnais et Beaujolais, en raison de mes possessions dans ces provinces. Puis, ayant participé au soulèvement de Lyon sous les ordres d'Humbert Colomé, je fus condamné à mort par la commission révolutionnaire de Lyon et guillotiné dans la même ville le 20 janvier 1794, ou plutôt, d'après leur ridicule calendrier, le premier pluviose de l'an 2. Le château fut saisi, nos armoiries, d'argent à un griffon de gueule, se situant dans la cour intérieure du château, furent martelées et mon épouse et mon fils durent s'exiler en Suisse. Mon fils, Étienne Horace Gabriel, en reviendra pendant l'Empire et sera nommé maire de Fourneau. Il semble qu'il ait retrouvé sa propriété des forges sans difficulté majeure, sans les meubles vendus aux enchères pendant son exil. À sa mort, tous ses biens ont été transmis à sa fille Coralie, épouse du comte Artaud de la Ferrière, chambellan de l'empereur Napoléon III, et morte sans postérité. La famille de Saron disparut avec elle. Les neveux de son époux vont dire la propriété des forges en 1834 à monsieur Amédée Roux de la Plagne, implanté dans le Forez. C'est lui qui a lancé les profondes transformations pour moderniser la demeure. À sa mort, la propriété est partagée entre son épouse et ses fils, qui la vendront en 1887 à Louis Nérand, ingénieur civil des mines, né en 1853. Sa famille en est toujours propriétaire et l'actuel maire de Fourneau, Jean-François Nérand, en est le descendant direct.
Eh bien, dites donc, qu'ajouter à cet historique précis ? Sinon, que le cadre est enchanteur au milieu des bois de sapin, des chênes séculaires et des vallons escarpés. Un grand merci, monsieur le marquis.
Cela me fait plaisir d'évoquer le temps jadis avec vous en cette période troublée qui me rappelle un tant soit peu les prémices d'une certaine révolution qui m'emporta là où je suis séant.
Eh bien, donc, je vous souhaite d'y retourner, et bon retour dans le royaume duquel vous revenez.
Serviteur, monsieur.
Micro-histoire sur RVR, présenté aujourd'hui par Claude Janin et Xavier Magat.